Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les plateformes participatives libres. Donc nous allons parler notamment de Décidim et Agorasso, évidemment on va expliquer tout ça. Également l'association Code for France, l'entreprise Open Source Politics, avec donc nos deux invités que je vais commencer par présenter. Tout d'abord Léna Dumont, chargée de communication d'Open Source Politics. Bonjour Léna.
Bonjour.
Valentin Chaput, cofondateur de Code for France et d'Open Source Politics. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Alors, nous allons parler donc de plateformes participatives et on va commencer par l'une historique quelque part et qui prend beaucoup d'ampleur, qui s'appelle Décidim, qui veut dire, je crois, nous décidons.
En catalan.
En catalan. Première question déjà, c'est quoi une plateforme déjà participative libre en une phrase déjà, en une ou deux phrases.
C'est une plateforme qui permet de mener des démarches de démocratie participative ou de gouvernance ouverte et qui est basée sur un logiciel libre. Contrairement à d'autres.
Alors contrairement à d'autres dont on a parlé dans une cas d'une émission, alors je me souviens plus quelle date, mais on retrouvera ça avec notamment Caroline Corbal. Mmh. Alors Décidim, donc c'est né en Espagne, à Barcelone, dans un contexte un peu particulier et tout à fait intéressant. Alors qui veut nous raconter un petit peu cette histoire de Décidim? Donc visiblement c'est Léna Dumont. Léna.
C'est moi. Oui, en fait, c'est né à Barcelone, Décidim. Donc, c'est un investissement public pour un logiciel libre. Et l'objectif de ce logiciel, c'était de mettre en place un plan d'action municipal co-construit ou co-écrit avec les citoyens de Barcelone. C'est un logiciel qui aujourd'hui peut être utilisé à d'autres échelles. Il a été utilisé pour une ville, mais il peut être utilisé pour des associations dans le cadre d'une organisation interne ou d'une gouvernance interne. Il peut être utilisé donc à une petite échelle, donc une ville, et à une grande échelle. En ce moment, à l'échelle nationale, il est utilisé par le Sénat pour mettre en place une plateforme donc, qui est en ligne aujourd'hui, la plateforme de pétition du Sénat, où les citoyens peuvent déposer leurs pétitions ou signer les pétitions des autres.
Ah, je précise avant que tu continues qu'en fin d'émission, nous aurons une chronique de Xavier Bern qui portera sur ce sujet-là, pas sur la partie technique, mais plutôt sur la partie politique. Mais je te laisse poursuivre.
Bien sûr, donc ça peut être utilisé à une échelle nationale. On a aussi un exemple avec la Convention citoyenne pour le climat, où les citoyens pouvaient déposer leurs propositions eux-mêmes pour aider les 150 autres citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat. C'est un logiciel libre qui peut, du coup, qui a été utilisé par les villes voisines de Barcelone au tout départ et qui s'est développé un petit peu, donc les villes voisines, etc., pour créer une communauté. Donc on sait qu'un logiciel libre a besoin d'une communauté pour fonctionner. Donc il y a eu des contributeurs de ce logiciel libre autour de Barcelone. Donc la communauté s'appelle Meta Décidim. Et chaque contributeur vient discuter. Donc il y a une progression du logiciel, en fait. Chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice et développe surtout des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être utilisées par d'autres utilisateurs de Décidim.
Alors, est-ce que je peux me permettre de te poser deux questions? La première, tu as dit que c'était dans le cadre donc d'un plan pour Barcelone, pour la municipalité. Donc, si je me souviens bien, c'était avant des élections.
Oui.
Et ça a été ensuite plus ou moins ou pendant les élections?
Non, en fait, c'est donc en 2015, la coalition Barcelona en Comú remporte les élections.
Ah oui, donc c'est après leur victoire.
Et après, en 2016, ils mettent en place une plateforme, donc Décidim, pour co-construire le programme d'action, le plan d'action municipale.
Donc ma mémoire me trahissait. Ouais. Et donc ça a été mis tout de suite en logiciel libre. Mais il y a aussi un second point qui me paraît très intéressant, sur lequel je voudrais que tu reviennes tout à l'heure. C'est la partie charte aussi. C'est-à-dire qu'un engagement, un certain nombre d'engagements qui participent au fait que finalement il y a de la réciprocité, que d'autres villes effectivement autour de Barcelone utilisent cet outil. Ça sera un point important. Alors, tu commençais à parler des fonctionnalités. Pour être un peu plus concret, aujourd'hui, si une structure veut utiliser Décidim, quelles fonctionnalités majeures cette plateforme propose?
Les fonctionnalités, ça dépend en fait complètement du projet de participation que les donc associations, villes ou même pays veulent développer. Et il y a donc peut-être Valentin peut peut les décrire mieux que moi.
Valentin,
je peux compléter, mais effectivement, donc Décidim, c'est un peu une sorte de Lego de la participation, et on peut créer des démarches qui sont très différentes et qui sont basées sur des briques, des fonctionnalités, et donc on a des appels à idées, hein, des propositions qu'on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir mettre des commentaires, des votes, éventuellement des jetons de soutien, des amendements participatifs, etc. Donc c'est un module qui est très riche. On a des questionnaires, donc qui permettent de faire des petites enquêtes. On a des modules de vote sur des budgets participatifs, ça c'est une des grandes fonctionnalités de Décidim. On a des modules de rencontres qui permettent d'annoncer un agenda d'événements et donc de rendre participatif aussi des réunions physiques. Et puis ensuite il y a des fonctionnalités un peu plus originales de tirage au sort, on pourra peut-être y revenir, donc de pétition, hein, dépôt et signature de pétition, et puis tout simplement d'actualisation d'une démarche avec des petits blogs, avec des pages d'actualité, etc. Et donc mise bout à bout et agencée différemment selon des calendriers qui peuvent varier d'une institution à l'autre, être des espaces ouverts ou fermés, etc. On a une pluralité des démarches qui sont rendues possibles par des.
Et ça couvre un large usage possible pour des organisations diverses et variées. Mmh. Léna, je te laisse poursuivre sur les villes proches donc, de Barcelone qui ont contribué à l'amélioration de cet outil-là.
Voilà, donc en fait, de fil en aiguille, ça a créé une communauté qui s'appelle aujourd'hui Meta Décidim. Et cette communauté donc, échange sur le logiciel. Elle fonctionne autour d'un contrat social, autour du logiciel. Et en fait, toutes les décisions sont prises démocratiquement via cette communauté Meta Décidim. Et c'est devenu en fait une communauté internationale aujourd'hui, grâce à des contributeurs dont nous faisons partie, donc Open Source Politics. On a développé des plateformes de participation et de démocratie participative en France, donc plusieurs échelles. Et on a aussi donc aujourd'hui Mexico, la ville de Mexico, qui l'utilise, le gouvernement italien, Helsinki. Elle est aussi utilisée au Québec, cette plateforme. Le gouvernement belge, éventuellement, l'utilise aussi. Et voilà. Donc aujourd'hui, on fait partie des plus grands contributeurs de cette communauté en développant des logiciels en France et ailleurs.
Alors, on va y revenir sur cette partie contribution et aussi le modèle économique, parce que c'est assez intéressant et ce sera l'occasion d'expliquer quel rôle joue Open Source Politics. D'ailleurs, j'aurais peut-être une question sur le nom que vous avez choisi pour cette structure, mais on va revenir sur la charte, parce que c'est... alors, on va rappeler, donc, premier point, c'est un logiciel libre, donc c'est une licence particulière qui s'appelle l'Afero General Public License, mais ce qu'il y a en plus, et ce qui paraît intéressant dans cette démarche-là, c'est la charte. Et qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette charte? Quels sont les points les plus importants dans cette charte et quel apport ça a par rapport au simple fait que ce soit un logiciel libre? Qui veut répondre?
Effectivement, donc Décidim parle d'un contrat social qui est une charte qui vient en plus finalement des licences du logiciel libre, donc qui sont des licences sur la partie technique et sur la réutilisation du logiciel et sa contribution, mais au-delà des aspects techniques, il y a aussi un usage qui est encadré pour se revendiquer de la communauté Décidim. Et donc cet usage, il doit garantir la traçabilité des données et des contributions, hein, c'est-à-dire que on ne fait pas n'importe quoi avec l'expression des citoyens sur la plateforme. On doit garantir d'abord l'intégrité, donc c'est-à-dire qu'on a des outils sur la plateforme qui sont directement dans le code, qui permettent de vérifier que quand un citoyen s'exprime, sa contribution n'est pas réécrite, transformée ou complètement censurée, effacée. Il y a des traces de tous ces éléments. Et l'idée de Décidim, c'est d'avoir une traçabilité de bout en bout. C'est-à-dire qu'on part d'une idée exprimée par des citoyens et on peut aller jusqu'à la réalisation concrète d'une politique publique et montrer tout le cheminement administratif, technique, financier qui conduit donc de l'idée à la réalisation. À côté de cela, il y a une transparence des données, donc par défaut, il y a une API qui couvre maintenant
une interface de programmation.
Exactement. qui permet du coup de réutiliser des données de Decidim et de les afficher ailleurs, notamment. On a des données qui par défaut sont accessibles et téléchargeables sur la plateforme, hein, en open data, données ouvertes. On a des enjeux de protection de l'utilisateur, c'est-à-dire que là aussi, par exemple, ses emails, son email qui est utilisé pour la création du compte, n'est pas exposé aux administrateurs qui pourraient en faire n'importe quoi derrière. Et notamment le réutiliser pour envoyer des communications qui ne sont pas liées à la plateforme. C'est-à-dire que c'est un environnement finalement complet.
Sécurisé finalement pour la personne qui contribue via Decidim.
Voilà, d'une certaine manière, c'est la garantie pour le citoyen qui va utiliser la plateforme et contribuer que d'une part, il y a une traçabilité sur ce qu'il dit, que ça ne peut pas être effacé, trafiqué, etc. Et d'autre part que ces données ne vont pas être réutilisées à des fins qui ne sont pas celles qu'on peut espérer attendre dans un cadre démocratique. Et donc ces règles-là du contrat social s'imposent finalement aux utilisateurs et aux administrateurs notamment qui mettent en place des démarches avec Decidim. Et après il y a tout un débat juridique sur voilà, la portée de ce contrat social.
Pour bien comprendre, c'est-à-dire que si quelqu'un, une structure, met en place Decidim, elle est contrainte par le fait que ce soit un logiciel libre, mais elle est aussi contrainte par cette charte. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas mettre en place cette plateforme sans respecter cette charte-là.
En tout cas, elle ne peut pas faire partie de la communauté,
Decidim,
mais être reconnue comme telle.
C'est une sorte de tampon de transparence, cette communauté Decidim.
Exactement. Qui rajoute donc du coup une couche juridique et politique aux licences techniques.
D'accord. Et aussi l'autre côté intéressant dont a parlé aussi Léna, c'est quelque part un partenariat public commun, parce qu'en fait il y a des municipalités, il y a des structures associatives et puis il y a aussi des entreprises. Alors justement, quel rôle joue une entreprise comme Open Source Politics dans cet écosystème Decidim? Qu'est-ce que quelle est votre pierre à l'édifice, ou comment vous utilisez Decidim? Léna Dumont.
Alors en fait, on accompagne des projets participatifs, quel que soit-il, tant qu'il y a vraiment un projet de faire participer une communauté. Nous, on a une expérience dans le logiciel Decidim, parce qu'on le connaît depuis 2016, on le regarde de France, et puis maintenant, on a quand même une expérience, même aux différentes échelles. Que ce soit pour une ville, pour une région, pour un département, etc. Et on accompagne ces villes. Donc souvent, elles viennent, donc ces villes ou ces organisations, elles viennent nous chercher en fait, en disant voilà, on veut installer une plateforme Decidim, on sait que vous avez une expérience, est-ce que vous pouvez nous aider à l'installer? Donc nous, on apporte notre expérience technique dans le logiciel, parce qu'on a des développeurs dans notre équipe, mais aussi sur le point, sur le volet conseil en fait, parce que tout dépend du passif de l'organisation qui vient vers nous. Si c'est la communauté qu'ils veulent faire participer n'a jamais participé à quoi que ce soit, et surtout pas en ligne, alors on va commencer par exemple une grande question qu'on posera à la communauté, et ils viendront y répondre, les citoyens viendront y répondre, etc. S'il y a déjà une expérience de participation ou même une expérience online, on peut essayer de pousser un peu le processus participatif avec d'autres fonctionnalités que permet Decidim. En fait, Decidim, c'est un logiciel qui permet de faire quelque chose de très simple comme quelque chose de très complexe.
Et il faut de l'accompagnement.
Il faut de l'accompagnement.
Et donc vous, votre modèle finalement de... Parce que vous êtes une entreprise, Open Source Politics.
Oui.
C'est donc de faire... payer, ce qui est normal, cet accompagnement, que ce soit l'accompagnement dont tu parles humain, mais aussi l'accompagnement technique, peut-être au niveau programmation, installation aussi.
C'est ça, c'est-à-dire que l'avantage du logiciel libre, c'est que le client, donc qu'il soit public ou privé, peut choisir déjà le cadre dans lequel est déployé Decidim. C'est-à-dire que soit il fait appel à notre paquet avec hébergement, maintenance, support, soit il peut choisir de l'héberger sur son serveur ou de nous demander à nous de venir l'héberger, de l'installer sur son serveur. Et dans les deux cas, on peut intervenir et apporter notre brique technique. Et puis à côté de cela, en réalité, la participation, nous, notre expérience depuis maintenant quand même quelques années, c'est que ça ne s'improvise pas. D'abord, il y a un certain nombre de bonnes
pratiques, de règles. Je crois qu'il y a des gouvernements qui pensent que ça s'improvise.
Oui, peut-être, peut-être, mais bon, nous on sait que ça marche moins bien dans ce cas-là. Et donc dans ce cadre-là, ça transforme finalement le rôle des animateurs, qu'ils soient donc des élus, des agents publics, des animateurs de communauté dans une entreprise, une association, un réseau. Forcément, l'apport d'un outil va transformer un petit peu leur manière de fonctionner. Surtout, il faut arriver à construire une démarche qui a du sens de bout en bout, qui apporte un vrai pouvoir aux citoyens et les bons supports aussi hors de la vie numérique, parce que on sait que les bonnes démarches arrivent à combiner ce versant en ligne et une participation qui est rendue possible aussi hors ligne par d'autres biais, etc.
Oui, parce qu'on sait très bien que certains outils informatiques peuvent réduire la participation.
Exactement.
Et c'est, parle de la fracture, mais c'est important.
Exactement. Et donc ce volet d'accompagnement, de conseil, c'est une autre finalement activité. Donc on a la technique et l'accompagnement. Et puis dans certains cas, effectivement, on est amené nous-mêmes à développer des nouvelles fonctionnalités sur Decidim et donc à les reverser ensuite à la communauté.
Ouais. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez derrière le terme qui est à la mode depuis quelques années de civic tech ou pas du tout ?
De moins en moins.
De moins en moins.
On a participé à à son essor en France. C'est un terme qui vient évidemment des États-Unis où il y a eu des déclinaisons de plein de choses en tech. Et la civic tech, l'idée, c'était d'avoir des outils qui renforcent l'engagement des citoyens, la participation démocratique, y compris entre les élections, parce qu'il n'y a pas que les élections. Et le corollaire, c'était aussi renforcer la transparence des institutions, des organisations qui mettent ces démarches en place. Dans les faits, aujourd'hui, c'est un terme qui a été aussi beaucoup détourné dans une stratégie start-up de vendre des projets, une croissance.
Start-up Nation.
Voilà, exactement. Et donc, finalement, la dimension civique a un petit peu disparu et en fait c'est beaucoup des entreprises qui deviennent des prestataires des gouvernements, donc on parle plutôt de GovTech si on veut rentrer dans le plutôt que de Civic Tech, parce
donc
que
GovTech, la finalité GOV, quoi, comme gouvernement.
Voilà, Gov comme voilà, on est au service de nos clients qui sont des gouvernements plutôt que des citoyens, et donc aujourd'hui le terme sans doute ne convient pas complètement et ou en tout cas si on l'utilise, nous on rajoute quand même une dimension qui a été beaucoup développée à Barcelone, qu'ils appellent la technopolitique, c'est-à-dire que le numérique apporte énormément de choses, mais il faut en faire un usage critique et stratégique, c'est-à-dire que c'est pas du tout solutionniste, là où le discours ambiant sur la civic tech, c'est que on met un nouvel outil, ça va transformer la démocratie, ça va être génial. Et à nouveau, ça ne s'improvise pas, c'est beaucoup plus complexe, il y a des jeux de pouvoir derrière aussi, et des modèles économiques différents qui peuvent avoir une incidence sur la finalité. Et c'est pour ça qu'on se reconnaît beaucoup dans ce que fait Decidim, à travers le logiciel libre, le contrat social, et finalement aussi l'inspiration, l'ambition de Barcelone depuis le démarrage de ce projet.
D'accord. Alors je jette un œil sur le salon web. N'hésitez pas à venir participer à la discussion donc sur causecommune.fm bouton chat. Donc il y a Pitrouille qui nous signale l'article donc de Silex Info. Le contrat social de Decidim vers des logiciels libres à mission. Et Étienne qui nous Calimac. Voilà.
Exactement.
Lionel Morel. Merci. Trop de mémoire, c'est horrible. Et donc Étienne lui qui nous dit, on se rappellera de l'excellent billet de Regard Citoyen, Civic Tech ou Civic Business, le numérique ne pourra pas aider la démocratie sans en adopter les fondements. Évidemment, nous rajouterons ces deux références sur le site de l'April dans la page consacrée à l'émission. Open Source Politics, aujourd'hui, c'est combien de personnes?
Mais aujourd'hui, nous sommes 16.
D'accord.
Donc c'est une entreprise qui a bien grossi.
Voilà, c'est une entreprise qui a bien grossi et une preuve qu'on peut faire du logiciel libre, on peut contribuer à un bien commun et avoir une entreprise florissante dans ce domaine-là.
Tout à fait. En fait, ce qu'on observe, c'est que depuis quelques années, de toute façon, il y a une demande forte hein, qui vient de des institutions, de plus en plus des organisations, parce que en réalité, ces outils permettent quand même de prendre des décisions de manière élargie, en s'affranchissant un petit peu des contraintes d'espace et de temps qui sont forcément auxquelles on est forcément confronté quand on essaye d'avoir une démocratie un peu plus participative, un peu plus dynamique, voire un peu plus directe. Donc ces outils apportent quelque chose. Simplement, avec la généralisation de ces expériences, nous, on parle beaucoup de ce terme-là, c'est-à-dire que on n'est pas du tout naïf, pas du tout solutionniste sur les apports de ces civic tech. On pense qu'au contraire, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de démultiplier les cas d'usage, les expériences. Ça va faire monter ce qu'on appelle souvent dans ce milieu-là la culture de la participation, aussi bien chez les décideurs, les acteurs publics et les citoyens eux-mêmes, hein, qui il faut parfois aussi un peu accompagner, hein, pour qu'ils se prennent au jeu. Et du coup, le développement de cette expérience généralisée implique que des acteurs émergent pour avoir ce rôle d'accompagnement technique ou conseil. Et l'intérêt du logiciel libre, et on le voit avec Decidim, c'est qu'il y a une communauté qui maintenant se crée à travers l'Europe, de différents prestataires qui peuvent accompagner des institutions et travailler à l'amélioration du commun. Et on espère d'ailleurs qu'en France, on ne sera pas les seuls
se saisir de ces outils.
Exactement.
Alors, c'est très bien ce que tu fais la transition avec le sujet suivant, qui va être justement, en fait, le projet que vous portez, ou la plateforme que vous portez actuellement, qui s'appelle... Donc, on va préciser quand même que le site web de Decidim, si vous voulez des informations, c'est decidim.org, sur lequel il y a beaucoup de liens, et on mettra évidemment les références sur le site de l'April et sur le site de la radio. Vous avez mis à disposition, et c'est initialement d'ailleurs Caroline Corbal donc, qui était intervenue. Mm-hmm. Alors, je vais préciser que Caroline Corbal donc, qui était intervenue dans l'émission du 26 mars 2019, justement sur les civic tech. On avait parlé de l'importance des logiciels libres, la transparence, et on avait beaucoup parlé d'une plateforme privatrice à l'époque, mais que je ne reciterai pas parce qu'on en a suffisamment parlé, voire trop parlé. Donc n'hésitez pas à écouter ce podcast. Et donc Caroline m'a récemment contacté en me disant écoute Fred, Code for France vient d'ouvrir Agorasso, une plateforme donc justement mise à disposition des associations pour justement découvrir et tester Decidim. Pourquoi vous avez ouvert cette plateforme et dans quelles conditions vous avez ouvert cette plateforme? Léna, Valentin, qui veut répondre? Léna Dumont.
Oui, comme tu l'as dit, en fait, on accompagne le projet de Code for France avec le soutien de la mairie de Paris pour que les associations de Paris puissent découvrir le logiciel Decidim et l'utiliser dans le cadre soit de leur projet interne ou de gouvernance interne, soit l'utiliser avec des personnes externes pour prendre des décisions, etc. C'est vraiment une mise à disposition gratuite des associations de Decidim pour qu'ils l'expérimentent et qu'ils découvrent aussi toutes les fonctionnalités de ce logiciel, et il y en a beaucoup, et qu'ils fassent en fait à leur sauce la participation telle qu'ils le désirent.
Alors quand tu dis avec l'aide de la mairie de Paris, donc c'est la mairie de Paris a fait une subvention ou vous accompagne dans le projet? D'accord.
Le soutien financier de la mairie de Paris.
D'accord.
Pour les associations parisiennes.
Donc la plateforme est réservée uniquement aux associations parisiennes ou c'est ouvert à toute association?
En réalité, c'est ouvert à toute association. C'était principalement ciblé à la base sur les associations parisiennes, mais la mairie de Paris n'avait pas d'inconvénient évidemment à ce que ça serve à toute association. L'idée, effectivement, c'est que pour des associations, ça peut être plus compliqué d'avoir un accompagnement qu'il soit technique et ou conseil. Et donc, à travers l'activité de Code for France, il y a cette mise à disposition d'une plateforme et donc d'un espace sur cette plateforme pour expérimenter avant de voir si il faut aller plus loin ou tout simplement pour répondre à des besoins ponctuels d'une association. Voilà.
D'accord. On va faire une pause musicale et après on va rentrer un peu plus en détail sur justement Agorasso et puis aussi Code for France, donc on a cité mais qu'on n'a pas encore présenté. Alors le choix musical, la pause musicale a été choisie par mes invités et j'en les en remercie. Alors, on va écouter Conjugation par Uncle Milk. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune 93.1. Thank you.
Nous venons d'écouter Conjugation par Uncle Milk, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Avec nos invités, nous parlons des plateformes participatives libres. Nous allons donc continuer. Donc, nous sommes toujours avec Léna Dumont et Valentin Chaput. Alors juste avant la pause musicale, on parlait de Agoraso, donc qui est une plateforme mise à disposition par Code for France, dont on en parlait tout à l'heure, basée sur Decidim, et donc qui s'adresse en priorité aux associations parisiennes, mais qui est en fait ouverte un peu plus largement. Est-ce que toute association, quelle que soit sa taille, sa structure, ses besoins, peut utiliser et tester Agoraso, et quel est le coût d'entrée? Valentin Chaput ou Léna
qui... Non,
Valentin. Excusez-moi, Léna Dumont.
Non, il n'y a pas de coût d'entrée, justement. C'est un peu ça qui est mis en avant. Et surtout, toutes les associations qui le désirent peuvent en bénéficier. Donc, c'est une plateforme Decidim qui est totalement mise à leur disposition et gratuitement. C'est un plus pour chaque association voulant tester en fait, la participation en ligne. Sachant que parfois une association a du mal à s'organiser du simple fait que tous les adhérents ou tous les contributeurs de l'association ne sont pas disponibles au même moment ou n'habitent juste pas au même endroit. Donc c'est une façon de s'organiser. Decidim permet de mieux s'organiser, de mieux connecter les personnes sur un même espace.
Et donc le site, alors je vais le citer parce que je ne l'ai pas cité pour le moment, c'est agoraso.codefort.fr. On mettra évidemment les références sur le site de l'April et sur le site de la radio. Et donc il y a un accompagnement qui est fait, parce que comme tout à l'heure dans la première partie, Valentin Chaput expliquait l'importance de l'accompagnement dans les outils de participation, à la fois pour la prise en main de la partie technique, mais aussi pour l'accompagnement des gens qui ne sont pas forcément habitués de ces outils-là. Donc Code for France, alors déjà explique-nous Valentin ce qu'est Code for France, déjà première question.
Alors Code for France, c'est un réseau de personnes, je pense qu'aujourd'hui il y a 150-200 personnes qui sont en tout cas inscrites sur l'espace de discussion, qui remonte à déjà quelques années, mais il a connu plusieurs itérations, je peux y revenir dans un instant, dont la finalité finalement, alors le slogan c'est un peu de mettre la technologie au service de l'intérêt général. Derrière ça, ce qu'on entend, c'est justement retrouver un petit peu la sève initiale de la Civic Tech, c'est-à-dire mener des programmes de mise à disposition de logiciels, de plaidoyer pour la transparence électorale, politique, démocratique, et accueillir finalement des projets qui réfléchissent à ces enjeux de débat démocratique, ou aussi de transparence. On a un très beau projet en ce moment, par exemple, qui vise à rendre lisible, accessible, consultable, la base de toutes les données des entreprises, donc les données financières des entreprises. Il y a des données qui sont ouvertes, mais il faut des interfaces aussi pour les rendre accessibles.
Donc c'est un collectif, quoi.
Code for France, c'est un collectif, voilà, qui réunit finalement énormément d'acteurs autour de projets qui sont acceptés et un petit peu incubés, accompagnés. L'objectif étant donc de mettre à disposition notamment quelques outils techniques qui sont mutualisés, donc il y a un chat, il y a un site, il y a à travers Agoraso une plateforme Decidim qui est librement utilisable, etc. Et l'idée, c'est qu'on se réunit, donc à peu près deux fois par mois. C'est un peu une porte ouverte à personnes qui ont envie de rejoindre un projet, de s'engager, avec ou sans compétences informatiques d'ailleurs. Et puis par moment, des actions de plaidoyer, des événements qui sont organisés un peu plus gros. On essaie de participer, par exemple, au mois de mai prochain, il y a la Nuit du Code Citoyen, qui est un événement qui a 3-4 ans maintenant, dont on est partenaire aussi depuis la création. On essaye d'apporter des projets sur des hackathons, ou d'en mentorer d'autres, ou voilà, tout simplement.
Un hackathon.
C'est un marathon de hackers, donc c'est d'ailleurs l'activité première de ce réseau Code for France, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il existait sous un autre nom qui s'appelait Open Democracy Now, et qui réunissait à intervalles réguliers une centaine de personnes qui venaient sur un week-end participer à un projet informatique de transparence, d'engagement des citoyens, etc. Donc on a accompagné à l'époque des projets comme La Primaire, comme Ma Voix, qui ont vraiment été des expériences politiques propres. Et puis, à travers des partenariats avec Open Law, par exemple, que vous avez peut-être interrogé dans cette émission, voilà, qui milite pour une ouverture du droit, travailler sur des questions de chartes, de principes. On s'approche de ce qu'a fait Decidim en Espagne, on essaie de l'adapter aussi. Et l'idée de ce collectif, c'est, sur un temps bénévole, d'essayer d'aider ce type de démarche, d'être le plus inclusif possible et de mener un plaidoyer, des recherches et d'organiser des événements pour permettre à chacun d'accéder à ces technologies et surtout là aussi de mettre un peu d'humain derrière, d'accompagnement pour voilà. Donc on a un certain nombre de projets qui ont été accompagnés, labellisés par Code for France. L'an dernier, vous parliez du grand débat tout à l'heure, on avait la grande annotation, par exemple, qui était l'idée de pouvoir étiqueter les contributions des citoyens sur la plateforme du Grand Débat pour pas s'en remettre à des logiciels d'intelligence artificielle relativement opaque dont on n'avait pas de visibilité sur le code, permettre à plus d'un millier de citoyens de venir labelliser donc ces contributions et finalement faire un premier travail de synthèse collectif. Il y a comme ça différents projets qui sont accompagnés, qui peuvent être ponctuels ou qui peuvent être sur un temps plus long, auxquels on apporte un peu de temps, un peu de bonne volonté, un peu d'énergie et tout simplement un moment convivial pour régulièrement travailler dessus, nourrir, etc. Donc de cette base de hackathon, en fait, on a gardé un peu cette logique de récurrence et de mise en commun des compétences, toujours bénévoles, mais au service du coup de gens qui souhaitent mener un projet ou voilà, tester des solutions.
Avant de revenir à Gorasso, tu parles donc de rencontres régulières, donc c'est des rencontres à Paris ?
C'est des rencontres à Paris.
Par des rencontres physiques.
Oui, les rencontres physiques sont beaucoup à Paris. Elles ont lieu pour la plupart au Liberté Living Lab, qui est un bâtiment qui se trouve dans le 2e arrondissement, donc c'est assez central, c'est assez pratique pour les Parisiens, ou les Franciliens en général. L'idée, c'est que c'est un bâtiment qui accueille un certain nombre d'initiatives, d'institutions publiques, mais aussi donc, de jeunes entreprises, qui essayent de contribuer par la technologie à résoudre des défis politiques, sociaux, de santé, environnementaux. Donc on a accès à ce bâtiment pour se réunir régulièrement. Alors c'est toujours un enjeu hein, depuis le départ, évidemment on aimerait bien pouvoir aller hors de Paris pour des raisons de ressources, de moyens, y compris de ressources humaines, on n'a pas forcément la possibilité de le faire. Il est généralement possible de rejoindre via de la visio nos événements, mais c'est aussi pour ça qu'on est partenaire, on essaye d'être partenaire d'autres démarches, les rencontres
villes.
Exactement, les rencontres de la citoyenneté numérique à Poitiers chaque année, la nuit du code citoyen dont je parlais qui a été lancée par les bricodeurs à Lyon, donc un collectif aussi à Lyon qui aujourd'hui s'organise dans une dizaine de villes francophones. Il y a un certain nombre comme ça de démarches dont on est partenaire pour essayer de faire en sorte tout simplement qu'il y ait ailleurs qu'à Paris évidemment la même énergie et la même capacité à contribuer.
D'accord, de toute façon je suppose qu'on peut aussi vous contacter par courrier électronique ou chat.
Tout à fait, il y a un chat qu'on peut rejoindre depuis donc le site codefort.fr.
Codefort.fr.
Voilà, on peut rejoindre le chat et là il y a par projet un fil de discussion et puis l'annonce des différents événements. Voilà.
D'accord. Présentation très claire donc de Code for France. Donc Code for France propose Agorasso, donc on va revenir à Agorasso. Et supposons que je sois une association, bon, j'ai vu qu'il y a une quinzaine d'associations qui sont référencées sur le site, dont une, le nom m'a fait très plaisir en tant qu'ancien joueur de handball, et c'est Roulette Handball. Je trouve que le nom est absolument génial et puis la description de l'association est très intéressante. Comment concrètement une nouvelle association peut se créer un espace ? Est-ce qu'elle doit le faire tout seul ? C'est-à-dire, est-ce que se créer un compte et elle est un petit peu se débrouille ? Ou est-ce que d'abord il y a une prise de contact, un échange pour expliquer un petit peu le fonctionnement de la plateforme ? Léna Dumont, comment ça se passe concrètement ?
Alors, sur la page d'accueil de Agorasso, c'est assez clair. En fait, vous contactez un membre de Code for France qui va vous accompagner complètement dans votre démarche de participation et va vous aider à mettre en place tout ce qu'il faut pour faire la participation de votre association. Donc vous envoyez un message et on vous accompagne dans l'administration en fait de la plateforme Décidim. Donc comment installer et quoi installer, parce que tout dépend des besoins et de l'association aussi. Donc vous envoyez un mail et le but c'est que vous soyez pas du tout perdu. Aussi, avant d'envoyer votre mail, si vous avez juste par curiosité envie de savoir, il y a aussi des notices qui sont disponibles directement sur la plateforme Agorasso. On vous explique un petit peu comment se déroule l'installation et l'inscription sur la plateforme Agorasso de votre association. Alors par exemple, il y a aujourd'hui des associations qui se sont juste inscrites et le nom de l'association apparaît sur la plateforme et ils n'ont pas encore démarré le processus de participation. D'accord. Il y en a d'autres qui ont entamé ce processus, donc par exemple Open Law, qui a mis... alors le projet c'est de mettre... Eux ils font des formations... c'est une association qui fait des formations et ils ont mis en place leur présentation, et le but c'est d'être collaboratif, que les gens viennent dire ce qu'ils veulent ajouter, ajouter leur contribution finalement aux présentations de Open Law.
Des formations autour du droit.
Oui, mm-hmm. C'est ça. Voilà, donc en fait. Plusieurs associations sont mises, donc là on est au nombre de 15, mais ça va sûrement augmenter, et je pense qu'on va voir apparaître toutes sortes de formes de participation. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être de l'organisation interne d'une association. Par exemple, élire le président de l'association, faire de l'écriture collaborative pour rédiger le règlement de l'association. Ça peut être simplement planifier une réunion pour l'organisation interne de l'association. Mais ça peut aussi englober des personnes externes et faire participer des personnes externes à l'association, ou des adhérents, etc., ou des bénéficiaires. Ou simplement des Français, enfin ça peut être un peu tout le monde. Et là, on peut parler de rencontres, d'événements, de discussions, de votes, de tirage au sort, etc. Voilà. Donc, quand vous êtes une association et que vous voulez installer un processus participatif, le mieux, c'est de le faire par étapes, donc la plateforme le permet. Et je donne un exemple pour que ce soit plus compréhensible. Vous voulez faire un budget participatif, ça c'est l'étape 1. Les gens votent pour ce qu'ils veulent voir se mettre en place. Puis vous mettez vous installez la fonctionnalité de suivi des projets, et là les gens peuvent venir voir ce qui a été fait par rapport à ce qu'ils avaient voté. Et là, par exemple, on peut installer l'apparence de pourcentage où on voit ce qui a été fait, à combien de pourcents, où est-ce qu'on en est dans le projet, etc. Donc ça, c'est la fonctionnalité suivi des projets. Et voilà, on peut avec toutes les briques de Décidim, faire un projet participatif qui a un début et une fin.
Et on peut commencer petit
et
progresser. Valentin Chapitre.
Il y a peut-être un élément effectivement pour des personnes qui n'auraient pas déjà vu une plateforme Décidim. On peut préciser, pour que ça soit un petit peu plus clair, que en fait Décidim est un générateur de démarches de participation. Donc on va avoir plusieurs espaces qui vont correspondre soit à un budget participatif, soit à un vote, soit à une démarche d'écriture collaborative d'un texte, etc. Et l'idée, c'est que avec Agorasso, on partage cette plateforme et donc ces différents espaces avec d'autres associations. C'est aussi la réciprocité. On n'a pas une plateforme complètement en marque blanche autonome de l'association, mais on vient avoir un espace. Cet espace, il peut être soit privé, et dans ce cas-là, il n'y a que des utilisateurs autorisés qui le voient et peuvent y accéder. Soit c'est un espace public, et donc c'est ce qu'on voit actuellement sur la plateforme. C'est des espaces avec à chaque fois une page d'information, et puis l'administration, soit d'un module de proposition, d'une enquête, les deux, un agenda, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, à travers Agorasso, on a accès à un de ces espaces. Et ce que disait tout à fait justement Léna, c'est que la raison pour laquelle il faut d'abord contacter Code for France, c'est que on va donner accès à un de ces espaces à l'administrateur désigné par l'association pour mener sa démarche. Et donc, il y a toutes les notices qui sont évidemment déjà disponibles sur la plateforme, mais ce contact permet d'avoir une prise en main, finalement, et l'administrateur d'une association ne va gérer que son petit espace à côté de tous les autres. Voilà. Ce qui permet de faire cohabiter aussi les différentes démarches. Mais le mieux, ce serait effectivement pour nos auditeurs et auditrices d'aller voir Agorasso et voir très concrètement à quoi correspondent ces différentes briques.
Alors, avant de poser la question qui me venait à l'esprit justement en t'entendant parler, il y a Étienne sur le salon web qui demande que tu précises ce que c'est qu'une marche.
La marque blanche.
Une marque blanche, excusez-moi.
Et bien donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'institutions, d'organisations qui vont souhaiter utiliser Décidim, mais ne pas du tout appeler cette plateforme Décidim, et avoir une plateforme qui est adaptée avec leurs couleurs, leurs logos, leurs typographies, évidemment leur contenu. Et donc ça, c'est le cas plus classique des clients, par exemple, d'Open Source Politics. À chaque fois, on vient adapter Décidim pour que ça soit la plateforme du client, parce que en réalité, c'est ce client qui engage sa démarche. Et donc, dans ce cas-là, il y a toujours une mention de Décidim, quelque part, mais c'est pas ça qui est mis en avant. Alors qu'effectivement, sur Agorasso, on vient partager l'espace de Code for France, et à l'intérieur, on a accès à ces fonctionnalités. Et par contre, au sein de notre espace, les fonctionnalités sont pas limitées. Donc on peut faire un tirage au sort, puis un module d'enquête de satisfaction sur la démarche, par exemple.
D'accord. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'aller voir sur le site à quoi ça ressemble. Est-ce que Décidim a un mode de démo, comme ont certains sites ou plateformes qui, avec des champs pré-remplis, qui permet de voir à quoi ça ressemble?
Et ben donc l'idée, c'est que Agorasso fait aussi un peu office de démo, c'est-à-dire qu'il y a un des espaces sur lesquels on a une présentation des fonctionnalités assez basique. Donc il faut savoir qu'Agorasso, c'est un projet assez récent, donc on est aussi il y a aussi un enjeu de démontrer à quoi cela correspond. Après, évidemment, Open Source Politics, on a notre propre démo de Décidim qu'on peut aussi présenter, et il faut savoir que Décidim en tant que projet international a sa propre plateforme de démonstration, et là sur cette plateforme on peut avoir librement donc ça se trouve sur notamment GitHub qui a les
GitHub, c'est une plateforme d'hébergement de site web de projet libre,
voilà, et du coup on peut récupérer les identifiants d'administration.
D'accord.
Pour venir voir exactement à quoi sert Décidim, comment c'est construit côté back office, quoi.
Et est-ce que cette initiative Agorasso, donc, qui est soutenue par la mairie de Paris, qui s'adresse avant tout aux associations parisiennes, est-ce qu'il y a des initiatives de même genre dans d'autres villes en France ou même en Europe, à votre connaissance?
Pas à ma connaissance.
Question piège.
Pas à notre connaissance.
Pas pour le moment.
Pas avec Décidim, oui.
Je crois pas.
Ouais, pas pour le moment. Et en l'occurrence, c'était ce projet donc, qui a été porté par Code for France et notamment par Caroline Corbal, dont on parlait tout à l'heure. Était l'un des lauréats d'un appel à projet de la mairie de Paris. Donc l'idée était de mettre à disposition cette plateforme et de regarder ce qui se passe autour.
Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il existe d'autres plateformes libres du même niveau que Décidim, voire supérieures ou pas, ou un petit peu inférieures, ou vraiment Décidim s'est imposé comme la plateforme de référence par son modèle, et par le fait qu'elle soit libre, mais aussi par son modèle?
À nos yeux, et on a un petit peu d'expérience dans le domaine, c'est aujourd'hui de loin la meilleure plateforme, aussi parce que c'est la plus modulable. À l'origine, notre groupe, communauté, collectif autour de Code for France a beaucoup travaillé sur DemocracyOS, qui était un logiciel argentin, qui est un peu plus ancien, qui était beaucoup plus simple, il y avait moins de fonctionnalités, mais ça marchait déjà, c'était assez intéressant. Ça nous a aussi permis de faire un apprentissage de ce que c'était que ces enjeux de démocratie participative en ligne. On parle aussi beaucoup de la plateforme Consul, qui a été créée par la mairie de Madrid avant Barcelone, à peu près dans les mêmes temporalités, c'était le même objectif, 2015, victoire aux élections municipales d'une coalition citoyenne, volonté de mettre en place une politique plus participative, création d'un logiciel. Et d'ailleurs, au tout départ, à Barcelone, ils ont essayé d'utiliser Consul et puis ils ont divergé sur justement la modularité de la plateforme. Consul était avant tout construit par la municipalité de Madrid pour la municipalité de Madrid. Décidim avait justement une vision tout de suite d'en faire un outil qui peut réutilisable à plusieurs échelles en parallèle, etc. Donc il y a eu une divergence. On sait que c'est des communautés qui se connaissent, hein, qui discutent entre elles, donc on espère qu'elles vont pouvoir reconverger. Mais aujourd'hui, oui, Décidim c'est vraiment imposé sur parmi les plateformes participatives en général et encore plus parmi les outils libres. Il faut savoir que par contre il y a d'autres outils qui existent. Par exemple, on parle donc aussi en ce moment des pétitions. Il y a certaines plateformes de pétitions qui ont existé notamment dans le monde anglo-saxon, hein. L'administration Obama avait sa plateforme de pétition, le Parlement britannique aussi. L'intérêt de Décidim, c'est finalement d'avoir un outil qui permet ces multiples usages et donc qui donne encore plus de liberté derrière dans l'utilisation.
D'accord. Alors, Gibus m'en voudrait si j'oublie de poser la question, parce qu'en préparant l'émission sur l'un des salons de l'April, donc Gibus demandait pourquoi sur le site de Code for France, il y a le choix d'utiliser le terme numérique plutôt qu'informatique. Valentin.
C'est une très bonne question à laquelle on n'a pas forcément réfléchi au préalable. C'est amusant parce que nous, dans notre domaine, en anglais en tout cas, on parle plutôt de digital democracy, donc plutôt digital. Et justement, en France, on ne dit pas démocratie digitale, on dit démocratie numérique. Je ne sais pas pourquoi ce terme s'est imposé plus qu'informatique. J'ai l'impression que c'est un peu dans le langage courant, le mot numérique est utilisé largement. Et donc, il a été décliné de cette manière. Je sais que l'étymologie de numérique renvoie plutôt aux chiffres, aux nombres. Et donc, peut-être au code aussi, hein, qui est à la base... peut être binaire, mais c'est une bonne question qui est avec une réponse ouverte, parce que c'est un choix presque inconscient, je dirais.
D'accord. Ouais. Alors, autre question, et j'avais dit que j'allais la poser, tant que j'y suis dans les questions comme ça, j'y vais. La structure, donc l'entreprise s'appelle Open Source Politics, autour du logiciel libre, et c'est marrant d'avoir choisi ce terme-là. Enfin, pourquoi avoir choisi ce terme open source, alors que justement l'open source vise à enlever tout le côté politique dans le sens vie de la cité qui est porté par le free software, par le logiciel libre. Alors, pourquoi ce choix de ce terme ?
Alors, si on fait un petit peu d'histoire de ce terme, à l'origine, Open Source Politics a été créé sous forme d'un meet-up associatif en 2015. Et on cherchait un terme qui exprime notre ambition de l'époque, c'est-à-dire de discuter de ces nouvelles technologies démocratiques et la nouvelle manière de faire de la politique à partir de là. Et ce qui nous distinguait d'autres acteurs en France, c'était l'open source, c'est-à-dire le fait qu'on rende ouvert et accessible le code source des plateformes. Et finalement, ce terme s'est assez vite imposé. Il avait été utilisé préalablement par une de nos inspirations, Santiago Siri, qui était le fondateur de DemocracyOS, cofondateur en Argentine, et qui avait écrit un article qui s'appelait Open Source Politics. Et donc, on s'était dit que c'était intéressant de reprendre ce terme, et puis il est resté, parce qu'il nous convenait bien. Et finalement, il traduit non pas forcément la dimension logiciel libre complètement, mais par contre il traduit assez bien notre ambition, qui est d'avoir un libre accès et finalement une transparence du code source politique qui permet à nos institutions de prendre des décisions. Et voilà, ça se retranscrit assez bien par Open Source Politics.
D'accord. Alors le temps file, l'émission se termine sous peu. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur que ce soit sur Code for France, sur Décidim, Agorasso? En tout cas, bon, évidemment, on encourage les structures parisiennes et autres à tester Agorasso en insistant sur le fait que ça fait un coût d'entrée très réduit, parce qu'on peut vous proposer avec cette plateforme de tester l'outil. Et je suppose que si par exemple une structure veut ensuite installer sa propre instance, elle peut récupérer ces données qui ont été créées via l'instance Agorasso.
Elle peut être accompagnée pour le faire, ouais. Et donc effectivement, après, l'idée de Code for France, c'est de permettre à un maximum de personnes de devenir autonomes aussi dans la gestion de leurs outils, et donc ça peut faire effectivement l'objet d'ateliers, de discussions avec Code for France. Ouais.
Et d'accord. Léna, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sinon, tu vas m'obliger à chanter.
Bien
tu sais
sûr
ce que je vais chanter.
Non, pas du tout, non, merci. Je veux bien ajouter que si vous avez été curieux et si ça vous intéresse de connaître ce que peut rendre Décidim via des processus participatifs, vous pouvez aller sur notre site internet opensourcepolitics.eu et vous avez un tas de références qui sont nos références et vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Décidim et tout ce que nous on a pu faire avec Décidim et avec d'autres institutions.
Oui, parce qu'il y a des références, je le disais tout à l'heure en introduction, dans d'autres pays. Tu parlais de Mexico, il y a Helsinki.
Oui. Il y a des références dans d'autres à l'étranger, à l'international. Et nous, on a nos propres références, en majorité en France, mais aussi en Belgique. Et voilà, elles sont disponibles sur notre site. Et en fait, on voit bien les clés du succès de chaque plateforme et les différences qu'il peut y avoir entre toutes celles-ci. Et voilà, et tout ce qu'on peut faire avec Décidim.
Et alors, je vais laisser le mot de la fin après à Valentin Chapu s'il veut rajouter quelque chose. Dans un mois, c'est les municipales, hein, 15 et 22, si je me souviens bien. Ça peut être un engagement que les gens qui nous écoutent aillent voir les candidats et candidates pour leur proposer, après l'élection, d'installer des propres instances Décidim pour les citoyens et citoyennes en local. Hein, c'est une action possible à faire. Valentin Chapu, je te laisse le mot de la fin.
Remercier l'émission, l'April en général, parce que on sait que sur ce sujet, c'est très important de faire la promotion et la défense du logiciel libre. Nous, on essaye de contribuer à cela. À travers l'exemple de Décidim, on a finalement une très belle incarnation des principes du commun, avec un acteur public qui finance initialement et qui aujourd'hui commence à avoir une communauté internationale qui vient contribuer à cet investissement. Et c'est aussi grâce aux plaidoyers, aux actions concrètes, à la diffusion à travers des émissions comme celle d'aujourd'hui, finalement ces usages, ces enjeux, que on a des décideurs et on a des citoyens et on a des informaticiens, des développeurs qui s'engagent aussi dans ces démarches. Donc c'est très important de continuer ces discussions-là et on vous remercie pour l'invitation et pour cette opportunité.
Voilà. Merci pour ce que vous faites et tu parles de la ville de Paris qui fait pas mal de choses autour du logiciel libre. Je vais aussi citer l'UTES qui est le portail. Et alors là, je ne me souviens plus dans quelle émission, mais nous avions eu le plaisir d'avoir Pierre Lévy qui était venu parler de retour d'expérience de l'UTES en compagnie de Laurence Compara, si je me souviens bien, de la mairie de Grenoble. Et l'an dernier, il y avait une tribune qui avait été signée par Emmanuel Grégoire, par Jean-Christophe Becquet, le président de l'April, et d'autres personnalités, avec un appel pour le logiciel libre dans les municipalités. Donc voilà, c'était important de le citer. Écoutez, je vous remercie pour votre participation et vos explications sur Décidim, Agorasso et Code for France. Et en fait, on ne va pas totalement abandonner ce sujet avec la chronique d'après. Donc c'était Léna Dumont et Valentin Chapu.